de l'après-midi.
Il est 18h.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Une fiction sonore francophone, indépendante.
Coup 6, Dimitri. Vous allez découvrir le projet radiophonique Pangée. Les épisodes correspondent au chapitre des mémoires d'Andonis, le personnage principal. Entre récits intimes, histoires familiales et fiction historique, Pangée nous fait vivre les dernières années de l'Empire ottoman. Une invitation dans la mémoire et le temps, là où les voix réveillent ce qui semblait disparu.
Pangée. Épisode 1. Defter. Kavala. 1977. Anna.
Cela fait maintenant 10 ans que papa nous a quittés. Chaque année, pour la fête de Pâques, maman prépare des kururakia, nos biscuits préférés. Nous les dégustons avec un café pendant que nous feuilletons l'album familial. J'y observe le visage de mon père se rider au fil des ans, à mesure que ses yeux perdent de leur éclat. Les tourments avaient creusé de profonds sillons dans son esprit et marquait un peu plus la figure figée sur ses quelques photographies. Il avait quitté un monde voué à disparaître et ne s'en était jamais vraiment remis. Mon père avait embarqué à bord d'un bateau mythique dont Thésée était le capitaine. Un voyage qui l'amena au bout de lui-même et dont il ne revint pas indemne. À nos yeux, il se dressait tel une montagne, capable de porter le monde sur ses larges épaules. Sans s'en rendre compte, les aléas de la vie faisaient souffrir ses articulations. La Grèce était redevenue paisible, mais son regard s'attardait par-delà les frontières, vers un lointain rivage où les souvenirs s'estompent. Cela fait maintenant 10 ans que papa nous a quittés. Et aujourd'hui, j'ouvre enfin ses mémoires. Au pied du massif du Pangée, face à la mer de Thrace, je tiens entre mes mains son vieux cahier en cuir, dont l'écriture hésitante se mue peu à peu en une élégante cursive. Ma sœur Nouritsa et son mari Ibrahim nous ont rejoints pour l'occasion. Voici l'histoire de mon père, une histoire qu'il nous faudra apprivoiser et qui nous ramène dans un monde révolu, une époque oubliée.
J'ai toujours aimé faire la sieste à l'ombre des vignes qui jalonnent notre village. Lorsque le soleil darde ses chauds rayons, je me plais à être réveillé sous la lumière de ces raisins gorgés de sucre. Rien de tel pour me rafraîchir le palais que le goût mielleux de ces douceurs après le dur labeur aux champs de tabac. Ces champs qui s'étalaient à perte de vue et dont je caressais amoureusement les feuilles, faisait la fierté du village et de ma famille. Car dans tout l'Empire ottoman, de Constantinople à Mossoul, on se perdait dans les volutes de fumée du tabac de Bafra.
«
Pangée, épisode 2, Terre de miel. Bafra, 1890-1912.
Je m'appelle Andonis, enfant des plaines fertiles de la mer Noire, dont les vagues nous rapportent l'écho des parlers venus d'ailleurs. Que de fois m'émerveillais-je devant ces voyageurs et marchands qui débarquaient au port de Samsun, rêvassant secrètement à ces contrées mystérieuses. Nos terres, maintes fois ravagées et conquises, avaient vu de nombreux peuples chérir ses entrailles et la cultiver avec amour, rendant doux le fruit de celui qui y consacrait son temps. Quelques années auparavant, le sultan Abdulhamid était renversé et exilé par le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeune Turc. Bien que son demi-frère fût désigné comme son successeur, nous savions que le dernier monarque absolu avait passé la main et que le pouvoir résidait maintenant au sein du comité. Notre maître d'école, M. Katsaros, savait lire les journaux étrangers et disait que les pays européens appelaient l'Empire « le vieil homme malade ». De notre côté, nous nous plaisions parmi chèvres et figuiers, la sueur du labeur rivalisant avec celle des danses, lors des fêtes où Lyra et Daouli nous accompagnaient jusqu'à l'aube. Si l'histoire nous a appris au moins une chose, c'est que le salut du clan ne passe que par son propre travail. Que le maître soit empereur byzantin ou sultan turc au turban, ni l'un ni l'autre n'amenait le pain sur la table, ni le bois dans l'âtre pour les rudes soirées hivernales. Mes parents, Aristidis et Sultana, étaient de modestes paysans qui parlaient uniquement le turc et le pontique. Pour me venir en aide, M. Katsaros m'avait appris à écrire l'osmanli, la langue impériale ottomane, écrite en caractères arabes, sans oublier le grec, qui me permettait d'aider ma famille à tenir les comptes de nos récoltes. Ainsi s'écoulait ma jeunesse heureuse, loin des soubresauts qui agitaient le corps du vieil homme malade.
Épisode 3. Nazar Bonchouk. Bafra, 1912. Andonis.
Un jour, mon père vint me voir, l'air sérieux, sa fière moustache accentuant l'austérité du paysan dur à l'ouvrage qu'il était. Fils, tu es un homme maintenant, et l'homme pourvoit aux besoins des siens. Tu partiras bientôt pour Smyrne, pour nous aider à trouver de nouveaux marchés. car les revendeurs du coin m'escroquent à chaque sac de feuilles. Trouve-toi une auberge où te loger près du port, ainsi qu'un négociant pour poursuivre ton apprentissage des affaires. Il se pencha et me prit par les épaules comme pour une confidence. Arrange-toi pour ne déranger personne là où tu iras. Smyrna beau être séduisante, tu ne seras pas chez toi. Fais en sorte d'être toujours irréprochable et serviable pour les autres. La veille du départ, je dansais et m'époumonais comme jamais. Mes larmes de tristesse se mêlaient à la joie de cette nouvelle vie qui s'annonçait et l'excitation m'empêcha de dormir. À moins que ce ne soit la boza et le vin fruité de mon village qui allaient tant me manquer.
Épisode 4. Chrysalide. Bafra, 1912. Andonis.
Au matin, entre les pleurs de ma mère et les bénédictions du pope, mon père s'approcha de moi, l'air bourru. Dans ce visage marqué par la terre et le soleil, je vis une lueur jusque-là inconnue. Derrière ses sourcils broussailleux, une larme tentait de se frayer un chemin parmi les innombrables rides sillonnant sa figure, abandonnant sa course au creux de sa joue. « Fais attention à toi, Andonimo. » Je partis peu après la récolte et arrivai en octobre dans la ville portuaire, en ayant pris grand soin d'éviter les déserteurs en chemin. Les guerres balkaniques affaiblissaient considérablement l'Empire, déversant leurs flots de réfugiés et de bachibouzouks, attisant les braises d'une tension croissante sur tout le territoire. Ces tracas s'évaporèrent lorsque la baie de Smyrne apparut devant moi, baignée de lumière.
Épisode 5. L'infidèle. Smyrne, 1913. Andonis.
Si je pouvais vous prêter mes sens, ne fût-ce qu'une seconde. Que vous puissiez humer les parfums s'échappant des boutiques de la rue Franck. Que vous puissiez voir les robes à la mode que portent les belles smyrniotes. Que vous puissiez entendre le français le disputer à l'anglais lors d'une conversation entre pachas ou goûter au jus de grenade dans les jardins de Bournabat. Heureux celui qui se promène le long de la jetée de Connac, contemplant la mer qu'encadrent de vertes montagnes, les oreilles flattées par la musique émanant des cafés à manne débordant de monde. Ici un évêque, là un derviche, une famille anglaise en calèche, un juif en route vers sa yeshiva, ou encore un tanneur albanais. Toutes ces cultures, sans se diluer, s'imbriquent les unes aux autres, faisant jaillir de la mosaïque de Smyrne autant de jeux de couleurs que dispensent les vitraux de la cathédrale Saint-Jean. De mon côté, je ne mis pas longtemps à prendre mes marques. Je m'étais dégoté une chambre dans une auberge de Baltchova, près des docks, et continuais ainsi mon apprentissage dans l'industrie foisonnante du tabac. Très vite, je maîtrisais les notions de poids et d'arithmétique, tant et si bien que les affaires prospéraient. J'y rencontrais d'ailleurs Bassem, originaire de Beyrouth, un négociant hors du commun qui allait devenir mon ami, mon frère et mon plus fidèle compagnon lors de mes soirées smyrniotes. Que de fois n'avons-nous pas refait le monde autour d'un café, sous les arbres paisibles du quartier de Boudja, imaginant notre ville adoptive surpasser Constantinople par ses richesses, sa diversité et son bord de mer où les bateaux de plaisance déambulaient au rythme des saisons. La vie était belle. Ma Sainte Trinité se composait de Bafra, de ma famille, et désormais de Calliope, perle de mes yeux, rencontrée sur les bancs de la cathédrale Sainte-Fotini. Ses pommettes rebondies lui donnent un air profondément malicieux, et les boucles de ses cheveux bruns s'écoulent sur sa peau d'albâtre, tels les ruisseaux qui jalonnent l'Asie mineure. Vivement le retour au village pour célébrer cette union au milieu des gens que j'aime et écrire le premier chapitre de cette vie qui s'annonce prometteuse.
Épisode 6. Sari Arçik. Bafra. 1918. Nouritza.
Le calme règne au village, sous un ciel de printemps. Les insectes bourdonnent alors que le soleil assèche les tuiles encore luisante de la dernière averse. On dirait l'heure de la sieste. Tonton Manouk est assis au pied de l'arbre et semble dormir si profondément. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Ce ciel bleu d'azur ronronne de chaleur. Et pourtant, je suis glacée. Envahissent la place. Vite, me cacher dans un arbre, fredonner des comptines. Ne pas écouter, ne pas regarder. Maman, papa, Nazar, mon petit frère, ils n'étaient pas avec nous quand maman m'a dit de fuir. Youssouf, Céline, Aïché, où êtes-vous, mes amis ? Le calme règne au village maintenant. Les bouteilles de raki que Turcs, Arméniens et Grecs partageaient à terre en 1000 morceaux. Nous sommes ottomans. Tout ne peut pas disparaître en un jour. Le silence remplace le calme désormais. Le silence et les cris sinistres des corbeaux qui se préparent au festin. J'ai peur. J'ai peur de crier par crainte de ramener le malheur sur mon village. Alors, je cours. J'ai les jambes en coton. J'ai faim. La peur au ventre, je cours jusqu'à tomber sur nos voisins Aristidis et Sultana. Les arbres et les nuages tournent autour de moi. La dernière chose que je vois avant de m'évanouir est la stupeur sur le doux visage de Sultana.
Épisode 7. Amélie Taboulou. Smyrne. 1918-1922. Andonis.
Smyrne eut la chance d'éviter une partie des affres de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, vu la distance avec Bafra, je devais me contenter de correspondances en guise de nouvelles. Un jour pourtant, je vis arriver non loin des quais deux voyageurs qui semblaient exténués. Baba, madame. Quel bonheur de les savoir en vie. Mais malgré la joie, des sueurs froides me glaçaient le dos. Pourquoi Nouritsa était-elle avec eux? Ils m'expliquèrent ce qui s'était passé. Nouritsa était devenue orpheline suite aux actes innommables qui s'étaient abattus sur le sanjak de Samsun, et ils l'avaient immédiatement recueillie. C'était la petite fille de nos voisins à Bafra, une famille de la patrie de Noé que nous portions dans notre cœur. Mes parents s'installèrent non loin de chez nous et firent connaissance de Calliope, que ma mère prit immédiatement en affection. Le prix de cet exil était lourd à payer. Les champs de tabac furent abandonnés et ma mère dut vendre ses bijoux afin de financer leur long voyage. Les nouvelles de l'intérieur du pays étaient épouvantables. Au fracas des armées grecques et turques s'ajoutaient les hordes de pillards ou renégats des deux camps en fuite, ravageant villages et récoltes, violant, pillant et tuant sans relâche. Un mauvais génie semblait s'être échappé d'une lampe et répandait ses relents venimeux sur le territoire, distillant la rancune, la peur et la haine entre nos peuples. Pour autant, nous faisions partie des chanceux qui avaient pu se soustraire au sinistre bataillon de travail dont beaucoup ne revinrent pas. Nous savions Smyrne une oasis et un refuge dans cet empire aux humeurs volatiles, et la protection des alliés nous paraissait assez solide que pour continuer notre vie comme si de rien n'était. Et pourtant...